Les partielles et le second tour des législatives se sont déroulées dans presque tout le territoire, ou du moins dans toutes les circonscriptions électorales de la République centrafricaine, même dans certaines régions où sévissent encore les hommes armés. Le vote a eu lieu sans incident majeur, à l'exemple de Dégol dans la sous-préfecture de Kwi, les régions de Ngaoundé et une partie de Bukaranga. Cependant, la présence des hommes armés à Bakouma dans le Mbomou et à Gati dans la préfecture de Mambéré a empêché les électeurs d'aller remplir leur devoir civique. Peut-on dire que l'autorité nationale des élections et le gouvernement ont réussi à leur pari? Quels sont les enjeux de ces élections législatives? Tous les yeux sont désormais rivés vers l'autorité nationale des élections ANE et la Cour constitutionnelle pour que le choix du peuple soit respecté. Et pour en parler, je reçois autour de cette table M. David Betty. Bonjour.
Bonjour aux étudiants, bonjour Patara.
Vous êtes directeur de cabinet au ministère de l'administration du territoire. M. Pascal Koyamene, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à ceux qui en partagent avec nous le français, parce que c'est la journée internationale de la francophonie.
Voilà, vous êtes porte-parole du Rassemblement démocratique centrafricain RDC. M. Albert Mayan, bonjour.
Bonjour.
Chef de division de communication de l'autorité nationale des élections ANE. Et Karl Blague, bonjour.
Bonjour Armando, bonjour à tous les auditeurs de Radio Ndekuluka et bonne fête pour la journée internationale de la francophonie à tous les francophones.
Merci, vous êtes observateur de la vie sociopolitique de Centrafrique. Gabriel Trésorier et Mathieu à la manette, au centre des discussions. Je suis Armando Nguendi, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce grand débat politique de Radio Ndekuluka.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekuluka.
Ouvrons le débat avec vous, Monsieur Albert Mayan. Quelle est donc votre appréciation du déroulement du scrutin législatif partiel et second tour du 14 mars dernier?
Merci. Je pense que pour parler d'appréciation de ces scrutins, je veux parler de ceux du 14 mars dernier. Nous sommes tenus, en tout cas, de jeter un regard rétrospectif par rapport au 27 décembre 2020. C'est par comparaison qu'on peut mieux comprendre ce qui vient de se dérouler. En tout cas, il vous souviendra que le 27 décembre dernier, il y a eu le premier tour des élections. Je vais parler des élections groupées, présidentielles et législatives. Et le climat était assez tendu sur l'ensemble du territoire centrafricain, il faut le reconnaître. Mais en dépit de cet environnement qui avait provoqué la panique sur l'ensemble du territoire, les centrafricains étaient quand même décidés d'accomplir leur devoir civique. Et c'est là l'enjeu qu'il faut vraiment souligner. Et donc maintenant, quand vous prenez le 27 mars et que vous évoluez, le 27 décembre dernier, et que vous évoluez vers le 14 mars de 2021,
dimanche dernier,
on peut considérer, en tout cas, sauf erreur, que même si en termes de mobilisation des masses, vous savez que le 27 décembre, il y avait les présidentielles, enfin, il y avait la présidentielle et les législatives. Par contre, le 14 mars, on avait seulement les législatives et partout dans le monde, lorsqu'on les gens vont aux élections et qu'on n'a plus affaire qu'aux législatives, la mobilisation baisse naturellement. Par contre, il faut dire que les Centrafricains ont pu voter partout. Les élections ont pu se tenir partout, sauf quelques, je crois, 5 ou 6 localités où il y a eu des incidents. Mais pour l'ANE, en tout cas, ces élections sont un succès. Du fait qu'en décembre passé, c'était la peur au ventre que les gens sont partis aux urnes, mais cette fois-ci, c'est dans le calme que les gens ont pu voter. Et donc, il y a eu une nette évolution et nous pensons que les résultats, ou du moins les objectifs en termes d'opération, ont été atteints.
Même question à tout le monde. Avec vous, M. David Betty, vous dites la même chose que l'Autorité nationale des élections sur les élections du 14 mars dernier.
Je félicite le travail qui a été étalé dans le temps par Ndekeluka, par les médias, ces médias privés, qui a fait un travail plus très important de communication, qui a suscité une grande adhésion pour ce scrutin du 14 mars 2021. Le 13, nous nous sommes fixés un rendez-vous. Je suis très content aujourd'hui qu'on devait se retrouver pour faire le bilan de par tout ce qu'on avait dit à l'époque. Du moment où, dans les 118 circonscriptions, sur les 118 circonscriptions, 113 ont pu, les électeurs ont eu le temps d'aller voter. Du moment où même dans ces circonscriptions-là, les groupes armés, les forces négatives ont donné leur participation en passant maison par maison pour sensibiliser les Centrafricains allaient voter parce qu'ils ont signé les accords de Khartoum malgré les problèmes que les gens aillent voter. Du moment où même ces groupes armés ont fait la sécurité de certains candidats, les aidant à battre campagne, l'américaine, tout ça, et que nous avons eu ces résultats, puisqu'il y a le ministère de l'administration du territoire, l'autorité nationale des élections et la Cour constitutionnelle, les trois groupes qui s'unissent pour traiter ces éléments-là et les résultats qui viennent vers nous. Nous pouvons dire que du moment où le peuple s'est manifesté massivement pour aller choisir les députés, je crois que dans l'ensemble, ça s'est bien marché. Si nous suivons,
et donc le gouvernement se félicite de ce travail accompli.
À partir des rapports des observateurs nationaux et internationaux, des observateurs de bonne foi, le gouvernement se félicite pour l'acte que le peuple a posé pour conserver son pouvoir.
Monsieur Karl Blaguet, vous êtes observateur de la vie sociopolitique de la République centrafricaine. Quelle appréciation faites-vous des scrutins ou du scrutin du 14 mars dernier ?
Oui, merci Armando. Effectivement, à écouter mes frères, représentants de l'autorité nationale des élections et le directeur de cabinet, M. Gbeti, de l'administration de territoire. Ok, sur la forme, apparemment, les élections sont passées sans incident majeur. Mais au niveau de la mobilisation, effectivement, il y a eu une certaine timidité. Maintenant, sur le fond, je ne pense pas que je suis à même d'aller dans les détails. Je pense qu'il revient aux techniciens de l'ANE et surtout à ceux de la Cour constitutionnelle de gérer. Mais sur le fond, d'une manière globale, les élections se sont tenues sans incident majeur. Mais je vais relever une chose, apparemment il y a eu un faible taux de participation. Malgré que les garanties de sécurité avaient été données, malgré qu'il n'y avait pas eu, des soubresauts politico-armés, mais au niveau de la population, on n'a pas senti cet engouement-là. Qu'on attendait.
À Bangui, à l'intérieur du pays.
Tout à fait, oui. Oui.
Voilà, monsieur Pascal Koyamene, qu'en dites-vous ?
Mais je vous remercie. Je dirais que bon, nous observons que le peuple centrafricain a accompli son devoir civique, mais avec peu d'engouement pour ces élections-là. J'aurais aimé que ces élections se passent le même jour sur l'ensemble du territoire. Malheureusement, il y a eu ce qui s'est passé, nous constatons avec regret. Mais ce qui est sûr, c'est que aussi, si on croit ce que dit le directeur de cabinet du ministère de notre territoire, c'est une évolution positive. Lorsque les forces négatives vont battre campagne et de maison en maison font la campagne de proximité pour aider les candidats, c'est une très bonne chose. Ça va dans le bon sens. Donc vraiment, ce qu'on souhaite, c'est que les élections, qui sont un événement capital pour notre pays, pour le devenir notre pays, il faut que ça se passe bien, pour que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer librement.
Albert Mbayan, vous voulez réagir rapidement, puisque je vais vous poser une autre question.
Oui, enfin, je vais d'abord rapidement apporter une certaine précision par rapport à la réaction de notre collègue observateur de la vie sociopolitique du pays sur la question de la mobilisation des électeurs. Je pense que les élections en soi ne sont pas la raison d'être d'un peuple. Le citoyen vit au quotidien, parce qu'il doit travailler, il doit manger, il a des besoins, je dirais, existentiels qu'il doit satisfaire. Et donc les élections arrivent une fois tous les 5 ans, soit les législatives ou les présidentielles, et on se mobilise pour les faire, et ensuite on s'occupe du quotidien. Et vous connaissez la réalité de la RCR aujourd'hui. C'est un pays qui est plongé dans une crise sans limite depuis au moins 3 décennies, et qui a atteint des pics depuis décembre 2012. Alors, c'est un peuple fatigué, s'il vous plaît. Ne l'oubliez pas. Le Centrafricain est fatigué de cette crise qui n'en finit pas. Et donc, lorsqu'il prend son temps, il prend une journée pour aller aux urnes, il faut dire qu'enfin, du moins, il est en train de consentir des sacrifices essentiels. En décembre 2020, les gens se sont massivement levés pour aller voter pour dire à quelqu'un qui s'appelle François Bozizé que la rébellion que tu amènes là, on n'est pas d'accord. Ce vote-là a été une sanction mais exprimé vis-à-vis de la CPC.
Mais est-ce que c'est à base de ça qui fait aujourd'hui qu'il y a un faible taux d'engouement?
Comprenez justement, laissez-moi le temps de terminer.
Quelques secondes.
La mobilisation du 27 décembre a été la réponse apportée par le peuple centrafricain à la rébellion de la CPC. vous amenez les armes, nous, on préfère les urnes pour vous dire, restez avec vos armes dans la brousse. Voilà, et il y a eu cette forte mobilisation. Les élections terminées, il y a eu un chef d'État qui a été élu. Les gens, les centrafricains, vous le connaissez, et quand le président est élu, le reste, ce n'est plus leur affaire. Et donc, vous pouvez multiplier votre communication, vos campagnes. Les députés ont battu campagne. Moi, j'étais en province, j'ai vu les députés battre campagne, faire danser les gens. Mais le 14 mars, timidement, ils sont allés voter parce qu'ils estiment que l'essentiel était fait au mois de décembre dernier. Et ça, ça s'observe dans tous les pays du monde.
Mais par exemple, à Boire, à Kouy, à Bukaranga, il n'y avait pas l'élection présidentielle.
Mais justement, la circonscription de la présidentielle n'est qu'une sur l'ensemble du territoire. C'est comme un petit village. Et quand elle est passée. Vous ne pouvez pas refaire les présidentielles à Boire ou à Obo, c'est terminé.
Oui, c'est ça. Mais
justement, finalement... Et donc, il y a plus de mobilisation quand il y a la présidentielle dans la course. C'est ça. Ce phénomène s'observe partout dans le monde. Il faut s'informer. Oui. Et donc, maintenant, quand on a affaire aux législatives, les gens sont faiblement mobilisés. Et ça, c'est humain, c'est normal, il faut le comprendre.
D'accord. Vous voulez réagir, non, Monsieur Pascal Koyamene?
Oui, je veux bien comprendre la démonstration de Monsieur Mbaya qui va dans le sens de la campagne qu'on vit tous les jours sur les chaînes, sur les médias nationaux. C'est-à-dire vouloir faire croire qu'une fois les élections présidentielles passées, c'est terminé, plus personne ne se déplace. Mais il faut savoir aussi que l'effet négatif, des forces négatives aussi, à porter ses fruits, c'est-à-dire la psychose dans la population qui ne veut plus prendre le risque d'aller, machin, des trucs, parce que rien n'était garanti que la sécurité à 100%. Dieu merci, les gens sont déplacés, mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu engouement. Point final, point barre.
D'accord. Je reviens vers M. Albert Mbaya. À l'heure actuelle, est-ce que tous les procès-verbaux sont acheminés ici au siège de l'autorité nationale à Bangui?
La réponse est simple, mon cher ami. Nous sommes dans un processus et il y a toute une mécanique qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle des résultats de ces élections. En tout cas, il y a eu le vote sur les 118 circonscriptions. Il y a 113 ont pu voter correctement. Et donc, les procès-verbaux sont d'abord rassemblés par les démembrements de l'ANE localement. Et ces procès-verbaux sont donc déposés dans les bureaux de ces démembrements. Et ensuite, la MINUSCA organise leur acheminement vers la ville de Bangui. Et ce transport se fait par voie aérienne. Parfois, vous avez des périodes où parfois le ciel n'est pas très clair et ça retarde les vols. Et donc, ce qui fait que au niveau du centre de traitement de données à Bangui, les gens dépendent plus ou moins des conditions climatiques par rapport à ces transports-là. Mais je peux vous dire qu'au niveau de la ville de Bangui, tous les procès-verbaux ont déjà été acheminés au centre de traitement de données, traités et publiés sur les ondes. Tout le monde a suivi.
Et les ondes de Radio Nationale.
Voilà, au niveau de la ceinture de la ville de Bangui, je vais parler de l'Ambelampoko et de la Lobaye. L'essentiel des résultats est arrivé. Et je pense qu'à partir du moment où je vous parle actuellement, en tout cas, des stocks de l'intérieur du pays sont en train d'être acheminés vers la ville de Bangui. Donc, progressivement, je pense que jusque dans les jours qui suivent, le tout sera stocké à Bangui pour permettre à l'ANE, en tout cas, de tenir les délais légaux.
Monsieur Pascal Koyamene, certains candidats se plaignent du fait qu'ils n'ont pas eu ou bien rentré en possession de la copie de certains procès-verbaux. Est-ce qu'au niveau de votre parti RDC, vous avez aussi ce même problème?
Mais comme vous le savez, c'est un problème récurrent. Chaque fois qu'il y a des élections, c'est toujours le même problème, malgré les efforts qui ont été faits. Dans la ville de Bangui, ça s'est bien passé. Les PV ont été distribués, mais dans l'arrière-pays, vous savez, le problème de notre pays, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est la neutralité de l'administration qui pose problème. Tant que l'administration n'est pas neutre, qu'il laisse les agents, les démembrants de l'ANE faire leur travail correctement, il y a toujours des problèmes. Par-ci, par-là, on nous signale que le sous-préfet est intervenu, le sous-préfet bat campagne en faveur de tel candidat, c'est l'éternel problème. Donc vraiment, on espère qu'au fur du temps, c'est peut-être que le processus électoral, la démocratie dans notre pays, c'est tout un long processus, c'est pas évident, mais en tout cas, il faut aller vers la neutralité de l'administration pour que le démembrement et l'ANE lui-même puissent faire le travail dans de bonnes conditions. Et c'est vraiment à déplorer que l'administration s'occupe des élections et crée des problèmes, contribue au tripatouillage des résultats. Et c'est ça qui est malheureux dans notre pays.
Mais la fois dernière, M. David Betty vous a déjà donné une réponse sur ce point que vous avez tenu, M. David Betty. Chaque semaine, une conférence visioconférence avec tous les préfets, les sous-préfets pour les attirer attention sur cette situation, n'est-ce pas?
Non, c'est une démonstration récurrente de la part du représentant du RDC. Depuis le 14 mars, nous n'avons pas eu de plainte en ce qui concerne les préfets, les autorités locales, qui aussi les enseignants. Mettre totalement l'administration de l'État à côté, n'ait pas utilisé l'administration de l'État pour aider l'autorité nationale des élections qui n'est pas représentative en ce qui concerne les professionnels sur le terrain. Le plus souvent, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'administration du territoire et l'ANE travaillent main dans la main avec les autorités locales. Pour le 14 mars, jusqu'à présent, là, il n'y a pas de plainte. Mais je dis que notre démocratie, elle est trop jeune. Elle est trop jeune, comme a démontré le représentant, le M. Mbaya, ici. Dans le temps et dans l'espace, on se bat tous les jours. Il va falloir que nous soyons conscients de cela. Et petit à petit, on y arrivera comme d'autres pays dans le monde.
Alors, si aujourd'hui des voix s'élèvent pour féliciter la tenue du scrutin dans presque tout le pays, peut-on dire que le plan du gouvernement pour la sécurisation des élections appuyé par la MINUSCA est un succès, M. David Bétier?
Oui, la MINUSCA est là. Ce n'est pas pour se mettre devant le gouvernement, devant le peuple. C'est derrière nous pour nous accompagner. Tout dépend de nous. Il va falloir qu'on mette fin à ces crises politico-militaires. Il y a un problème de fond. La dernière fois, je parlais de la démocratisation à l'intérieur des partis politiques. Bon, le ministre me disait que non, on n'est pas là pour la... Ça va avec la démocratie. Une démocratie décentralisée. Une démocratie qui prend en compte une administration proche du peuple. Lorsqu'on met dans la tête des militants les kalachnikovs avec le militantisme, demain on va prendre le pouvoir, demain on va prendre le pouvoir, ça tue la démocratie. Et donc si l'espoir n'est pas partagé, le peuple sera mobilisé pour aller aux élections. Et partout ailleurs, quand il y a élection, il y a l'abstention, il y a des gens qui ne veulent pas voter, il y a des gens qui restent à la maison, même en temps de paix. Et donc nous tenons compte de tout cela, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Ce qu'a fait le peuple, je dis que là où il n'y a pas d'élection, le peuple perd son pouvoir. Et cette fois-ci, le peuple a pris conscience. L'électorat centrafricain est calqué sur la masse paysanne. Il y a un travail à faire dans le temps, dans l'espace. On nous a imposé la démocratie, au lieu de nous créer des universités, de nous créer des écoles, on nous a imposé la démocratie. Mais on va à pas de tortue dans le temps. On pourra y arriver comme les autres pays du monde.
Voilà, l'autorité nationale des élections, M. Albert Mbaya, vous l'avez déjà dit à l'entame de ce débat, que tous les procès-verbaux aujourd'hui, ou bien presque dans toute la République centrafricaine, les élections législatives se sont très bien déroulées. Ça veut dire que le plan de sécurisation du second tour pour certaines circonscriptions et partiel pour d'autres s'est très bien déroulé, appuyé par la MINUSCA.
Je réponds à cette question en rappelant que, je crois, sauf erreur de ma part, trois semaines avant le 14 mars, l'autorité nationale des élections avait organisé un atelier d'évaluation du premier tour. Cela s'est déroulé à l'hôtel Oubangui, à l'Oubangui Hôtel. Et au cours de cet atelier, toutes les parties prenantes au processus électoral étaient représentées. Et justement, le chapitre concernant la sécurisation des élections a été largement discuté, traité dans l'une des commissions. Les uns, les autres ont pu comprendre que la sécurisation du processus électoral, c'est pas seulement l'affaire de, je sais pas, du département de notre territoire. L'État centrafricain est intervenu à travers les FSI. Il y a également la MINUSCA. En tout cas, c'est toute une stratégie conçue et appliquée, je dirais, du commun accord,
synergie, oui.
Voilà, avec les forces internationales. Et donc, toutes les erreurs qui ont été commises lors du premier tour ont pu être relevées.
Le 27 décembre.
Voilà, ont pu être relevées au cours de cette évaluation. Et ont donc été prises en compte le 14 mars dernier. Je peux vous dire que, moi je ne suis pas porteur de tenue, mais l'observateur que je suis a pu remarquer qu'il y a eu un travail plutôt dynamique qui a été fait. Tout le monde est au courant, par exemple, que les forces alliées ont fait un travail énorme à l'intérieur du pays aujourd'hui. Et sauf si on veut faire l'usage de la langue de bois, les gens d'en face, les forces négatives, comme tout à l'heure le disait le ministre Kouyamene, qui pensaient pouvoir, avec leur Kalachnikov, effrayer la République centrafricaine, je pense qu'ils ont battu en retraite. Ils ont compris qu'en face, les gens qui arrivaient ne venaient pas s'amuser. Ils avaient intérêt plutôt à battre campagne avec nous, hein, avec tout le monde. Et laisser le peuple voter, et ça a porté fruit. Ceux qui sont contre la présence des Russes et des Rwandais, ils ont leur raison.
Bon, on y reviendra sur d'autres discussions.
Je veux dire simplement que, en tout cas, le plan de sécurisation conçu par l'État a donné ses fruits Et aujourd'hui, les Centrafricains ont pu voter librement. Et je pense que c'est un défi qui a été relevé.
C'est un défi, c'est un défi.
On ne peut pas être Centrafricain et cautionner ce que font les bandits. Monsieur Adarbaya,
malgré la présence des hommes armés à Kouy, à Ngaoundaï et une partie de Bukaranga, la population a pu quand même voter. Peut-on dire que ces rebelles ont compris la nécessité de la représentation démocratique du peuple à l'Assemblée nationale, monsieur Karl Blaguet?
Oui, si le scrutin s'est bien passé.
Oui, en leur présence. On sait par exemple à Kouy, il n'y a pas la présence des forces loyalistes, hein, ils ne sont pas.
Effectivement, ça signifie qu'ils ont donné leur aval. Hein. Je ne sais pas, il faudrait poser la question justement aux représentants, aux démembrements de l'ANE. Je pense que s'il y a eu vote, il y a eu des membres, des représentants de l'ANE dans ces localités. Il faudrait leur demander comment ça s'est passé, et notamment aux différents candidats qui ont pu justement faire exprimer leur suffrage et aux électeurs là-bas. Je pense qu'il faudrait que l'ANE, si à Kouy, ou à Bukaranga,
vous dites
une partie de Bukaranga. Centre, ok, mais je pense qu'il y a eu un des nombreux de l'ANE. Il faudrait poser la question aux représentants de l'ANE dans ces localités pour leur demander pourquoi l'attitude justement des groupes armés a changé, pourquoi les groupes armés les ont laissés.
Mais peut-être c'est surprenant, comme a dit M. Albert Mbaya tout à l'heure. Peut-être les groupes armés ont compris qu'aujourd'hui, il faut laisser les gens aller voter et choisir les représentants.
Non, moi, je ne peux pas me mettre dans le cerveau des groupes armés.
Madame le maire de la commune de Dilouki, c'est-à-dire de Ndim, que nous avions appelé ici sur Radio de Kiluka, nous a fait savoir que les groupes armés sont présents, mais ils n'ont pas empêché la tenue de ce scrutin partiel.
Effectivement, mais ça aurait été bien pour la dynamique du débat, toucher un représentant de ces groupes armés dans cette localité pour leur demander pourquoi, justement, ils ont laissé le scrutin se dérouler.
Monsieur Pascal Koyamene, lors de l'émission précédente, vous avez émis de doutes quant à la réussite de ces opérations électorales. N'êtes-vous pas satisfait de ce pari gagné?
Ouais, je pense que je ne voulais pas tacler mon frère Mbaya, qui croit que vraiment, avec la présence de tout ce qu'il a cité, force loyaliste, et puis les problèmes sont réglés. Non, au contraire. Les problèmes restent entiers. Il ne suffit pas de prendre les grandes villes et puis ça y est, le peuple centrafricain, ce n'est pas seulement Bombari, Alindao et autres. C'est l'intérieur, c'est-à-dire les communes, les grands villages qui sont à l'intérieur du pays. Donc les problèmes du pays restent entiers. C'est une partie, c'est une satisfaction partielle. Je dirais simplement que oui, les élections ont eu lieu, c'est une très bonne chose et que le vrai fond du problème doit être traité. Il ne faut pas que les élections, c'est une chose. J'avais dit la dernière fois, ce n'est pas une panacée. Ça ne règle pas tous les problèmes. Mbaya avait dit tout à l'heure qu'il y avait le problème du quotidien des Centrafricains, et il y a le problème de libre circulation qui n'est pas encore tellement garanti. Donc ces choses-là doivent maintenant être traitées. Je veux bien, merci beaucoup que les élections ont eu lieu, c'est très bien, mais en tout cas, les problèmes de fond, les règlements du conflit doivent être vus et traités pour que le peuple centrafricain retrouve la quiétude, vive dans un pays pacifié où le quotidien des Centrafricains redevient comme dans les autres pays du monde.
Mais comment expliquez-vous aujourd'hui cette attitude de ces groupes armés dans certains endroits, par exemple Ngaoundaï, Kouy, malgré qu'ils sont là, même cette fois-ci ils ont accepté que les gens puissent aller aux urnes élire les représentants?
Mais on peut réfléchir à haute voix. Est-ce que c'est une stratégie? Moi, je ne sais pas, moi je ne suis pas des groupes armés.
Oui, et la même question à M. Albert Mbaya tout à l'heure.
On peut dire que c'est une stratégie, parce que moi je dis que ces forces négatives-là ne sont pas vaincues puisque gardent leur capacité de nuisance, à mon sens, que je sache. Mais vraiment, c'est peut-être une stratégie de leur part, je ne sais pas. Mais moi, je félicite que le peuple centrafricain puisse s'exprimer librement en termes de démocratie, en termes d'élection. Maintenant, il y a des problèmes de fond qui restent posés, il faut les traiter.
Voilà, monsieur Albert Mbaya, sur ce point, rapidement, je vous en prie.
Pourquoi les groupes armés ont laissé faire, c'est cela?
Dans certaines circonscriptions.
Voilà, je suis d'accord avec vous, mon cher ami. Je reviens toujours au 27 décembre dernier. Vous avez vu, c'est l'élan qu'avait pris ce groupe armé, je veux parler de la CPC, il faut citer les gens par leur nom.
Oui, CPC. Hein.
Qui était, excusez-moi, enragé, décidé à empêcher les élections. Pourquoi? Posez-vous la question. C'est parce que la tenue de ces élections les met KO, mais carrément, son équipe KO, parce qu'aujourd'hui, les élections ont eu lieu, il n'a plus d'argument, le peuple a fait un choix. Et c'est ce qu'il voulait absolument éviter. Voyez-vous? Et donc, le fait d'avoir reculé, de laisser les Centrafricains voter, c'est parce que, en face, les gens ont compris que là, le rapport de force qu'il y a sur le terrain n'est plus, ou bien n'étant plus en leur faveur, ils ont compris qu'il vaut mieux ne pas les réveiller, le lion qui dort, c'est tout. Et donc, quand la présence des troupes rwandaises, des Russes et de la MINUSCA sur le terrain, a fait clairement comprendre à la bande de la CPC, parce que pour moi j'appelle ça, ce sont des bandits, c'est pas une rébellion, ils viennent de l'extérieur, ce sont pas des Centrafricains qui étaient venus pour nous empêcher de vivre chez nous. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas en tout cas affronter ces gens-là, c'est pour cela qu'ils détalent à chaque fois que ces forces arrivent, comprenez-vous. Et donc ils ont clairement fait le rapport et on conclut qu'il vaut mieux laisser les gens voter plutôt que d'aller provoquer des problèmes qu'ils ne pourront pas
monsieur,
gérer.
Monsieur David Gbeti, vous avez aussi vos représentants dans ces endroits dont nous venons de citer, Kui, Bukaranga, Ngaoundaï. Est-ce que vous avez eu des informations?
Je pense que le débat, excusez-moi de la qualité de ma voix, le débat est clos. Quand le peuple se lève, malgré tout, pour aller exprimer sa volonté, porter son choix sur le 13, je disais ici que ce n'est plus des groupes d'individus qui se retrouvent quelque part, qui se retrouvent au Tchad, au Gabon, au Congo-Brazza, pour dire que c'est moi qui passe président de la République, c'est moi qui passe premier ministre. C'est révolu. L'humiliation qu'a eu les différents régimes dans ce pays. MLPC a été sali, le RDC a été sali, beaucoup de régimes ont été froissés dans ce pays parce que on ne nous permet pas de plonger les mains dans le sous-sol, toucher le pétrole, toucher l'uranium, toucher ceci et cela. Dans les communications que vous avez l'habitude de faire ici, les médias, le peuple commence à s'imprégner. Voilà. Qui est prêt à mourir aujourd'hui? Tout ce qui s'est passé en politique, c'est les rapports de force sur le terrain. Quand ils, dans leurs revendications, ils ont dit qu'il arrivait à Bangui. La seule personne qui l'insultait beaucoup, c'est le président de la République. Ils vont le prendre. Ils n'ont pas parlé des députés, hein. Ils n'ont pas parlé des candidats, ils n'ont pas parlé du peuple. Et nous avons vu une différence d'évolution entre le groupe Sélèque à l'époque et CPC aujourd'hui. Donc, de tout ce qui s'est passé autour de Bangui, ils sont venus une fois. Deux fois, peut-être ça n'a pas marché. Il y a eu des frappes à Carnot, il y a eu des tueries à Bombari, des innocents payés les prix. C'est parmi eux, il y a des Centrafricains qui ont réfléchi, si on continue à le faire, mais c'est des innocents qui vont trouver la mort.
Et ça, ce sont des réflexions sur ce point de la présence de groupes armés. Hein.
Mais ma manière de penser ne doit souffrir d'aucune autorité.
Si vous me permettez, avant de poursuivre avec vous ici sur le plateau, je vous propose d'écouter d'abord les attentes de quelques Centrafricains sur ce scrutin.
On souhaite à ce que le gouvernement ou bien l'ANE fasse son travail correctement. Il ne doit pas prendre la voix de l'autre pour donner à une autre. Donc, on souhaite à ce que le travail soit fait et voilà.
Maintenant, c'est pour que les choses soient dans de la transparence. C'est qu'on demande à ce que l'autorité nationale des élections prenne sa responsabilité de nous donner des résultats fiables et éviter des hold-up, c'est-à-dire des manipulations, des faux jeux dans cette élection. Nous voulons à ce que cette élection soit claire pour que les Centrafricains qui ont voté voient le résultat selon ce qu'ils ont fait. Parce qu'on a su, nous les Centrafricains, nous avons très bien voté. Et on a voté, on attend les résultats selon ce qu'on a voté. Mais si par après, les résultats viennent en défaveur de ce qu'on a fait, c'est ce que nous disons non.
Je souhaite à ce qu'il y ait le respect des urnes. Il faut qu'on donne la voix à celles qui méritent la voix et qu'il n'y ait pas au fait la corruption.
De mon côté, je vois que l'élection s'est bien passée, tout s'est passé comme prévu. Et l'ANE a proclamé les résultats provisoires. Ce que j'attends juste de Cour constitutionnelle, c'est le respect des voix proclamées par l'ANE pour ne pas qu'il y ait des problèmes.
Nous sommes arrivés vraiment à un moment, je dirais, très important, dans la recherche de la paix surtout. Et après ces élections législatives, nous demandons vraiment qu'il y ait plus de paix et dans cette optique que l'autorité nationale des élections et la Cour constitutionnelle puissent veiller à ce que la loi des urnes soit respectée en faveur de la paix et de la réconciliation. Donc vraiment, au nom de la paix et de la réconciliation, nous demandons à l'autorité nationale des élections de veiller à ce que tout se passe dans le respect des lois des urnes.
Moi, je vois que l'ANE a bien organisé son travail. Moi, je vois que dans notre secteur, ils ont bien organisé. Les gens étaient venus voter les députés de leur choix. Moi, je vois que c'est bien. Moi, je vois que le vote des voix, c'est pas bien. Il faut qu'il y ait une bonne relation avec les électeurs de venir participer à chaque élection.
Ce que nous attendons envers l'ANE et la Cour constitutionnelle, c'est qu'il faudrait qu'ils nous ressortent un résultat fiable pour que les peuples soient contents de leurs résultats.
Ça, ce n'est pas du tout normal. Je compte à ce que l'ANE fasse leur travail dans la transparence. Tout ce que je dis.
Voilà, vous venez là d'écouter les avis des Centrafricains sur le scrutin. Monsieur Albert Mbaya, qu'en dites-vous de cela ?
Enfin, j'ai remarqué que dans toutes les déclarations faites par les uns les autres dans cette séquence, j'ai rapidement noté, c'est revenu à plusieurs reprises, une préoccupation sur la transparence, sur la clarté, et donc question de confiance et de fiabilité des opérations électorales. En tout cas, je suis chargé de la communication à l'ANE et je peux vous dire que quand les élections approchent et qu'elles sont déclenchées, il y a toujours en toile de fond, et ça c'est normal, c'est humain, une sorte de climat de suspicion. Ça, vous trouvez cela dans toutes les élections du monde. Quand on va au vote, puisque c'est dans un contexte de lutte où il y a quelqu'un qui veut un fauteuil, chacun essaie de voir si l'autre n'essaie pas de le tromper. C'est à tous les niveaux. Là, je dis que ça c'est l'humain. Et vous le trouverez partout dans le monde. Maintenant, pour ce qui se passe au niveau de l'ANE, au cours de l'atelier d'évaluation que j'avais rappelé ici tout à l'heure, l'ANE a identifié toutes les faiblesses du premier tour et a mis en place, en tout cas, des mesures correctives pour que les écueils du premier tour ne se répètent point au second tour. C'est pour cela qu'il y a eu la formation des formateurs de l'ANE qui sont partis sur le terrain encadrer à nouveau tous les membres de démembrement ainsi que les membres du bureau de vote, renforçant leurs capacités afin que ceux-ci travaillent correctement au niveau du traitement des imprimés, des procès-verbaux et de la gestion de ces supports-là. Ça a été fait. Et il y a eu également la formation des représentants des partis politiques afin de leur rappeler leur rôle dans les bureaux de vote. Tout ce travail a été fait en amont. Et je peux vous dire que pour ces élections-ci, sur l'ensemble du territoire, dans chaque bureau de vote, il y a eu la représentativité normale de tous les candidats et des partis politiques qui ont eu accès à tous les documents. Oui. Et donc, depuis cette période-là jusqu'au centre de traitement de données, je vous dis qu'hier, il y a eu une visite de presse au centre de traitement de données. Il y a des sièges qui sont préparés pour les représentants des partis politiques. Donc, les partis politiques ont la possibilité d'aller maintenant, même maintenant ou demain ou tout à l'heure, au CTD, pour assister et voir comment les choses sont traitées.
Merci.
Donc la transparence est de mise du début à la fin.
On va revenir.
Il n'y a pas de cafouillage, franchement, il n'y en a pas.
Non, ne vous en faites, on y reviendra avec vous pour comprendre davantage. Monsieur David Betty, vous partagez également l'avis de ces Centrafricains.
Je vous assure que je suis nationaliste, je suis citoyen. Lorsque on parle de la démocratie, un bien mal acquis ne profite jamais. Tant que la volonté du peuple ne gouvernera pas ce pays-là, tant que le choix que le peuple s'est porté sur n'importe qui pour être président, député dans ce pays ne sera pas respecté, et qu'on continuera à déformer la volonté du peuple à tous les niveaux, nous pouvons chercher les raisons de ce gouffre dans lequel nous vivons, on peut chercher ailleurs, mais ça se trouve là. Je suis pas seulement directeur de cabinet au ministère de l'Amitié et toi. Je suis président de l'Organisation centrafricaine pour la protection du pouvoir du peuple et des intérêts de la nation. Je défends cela à tous les niveaux. Mais de l'autre côté, nous gérons les partis politiques. Lorsque les pays qui n'ont pas eu la chance d'avoir les partis politiques assis, profondément assis, imaginez des partis politiques qui n'arrivent pas à proposer des candidats dans toutes les circonscriptions administratives, des partis politiques qui n'arrivent pas à notifier des représentants dans tous les bureaux politiques, ils donnent l'accès aux fraudes, à celui qui a les moyens financiers, matériels, en énergie pour tricher et formaliser. Mais nous souhaiterions qu'il y ait une conscience nationale dans ce cadre précis. Si nous voulons de la démocratie dans notre pays, il ne faut rien déformer. Là, le mal, un bien mal acquis, je conclue par là, ne profite jamais. ni à un individu, ni à une nation.
Voilà, mais en écoutant tout à l'heure l'avis ou bien les avis de certains Centrafricains, c'est beaucoup plus, si vous comprenez, hein, c'est beaucoup plus orienté vers l'autorité nationale des élections, et en passant par vous, hein, au niveau de l'administration du territoire qui accompagne d'ailleurs ce processus, et la Cour constitutionnelle pour que le respect des urnes soit effectivement fait, quoi.
Laissez l'autorité nationale des élections s'asseoir tranquillement sur ses oreillers. Au fait, l'autorité nationale des élections ne présente jamais de candidats. La victoire aux élections, le fait d'éviter les fraudes, ça commence depuis l'enregistrement des électeurs sur la liste électorale, que ceux qui ont proposé de candidats n'arrivent pas dans leur budget à émarger quelque chose pour sensibiliser la population à s'inscrire, sinon pour partager les pagnes, les t-shirts, c'est-à-dire cela à des gens qui n'ont même pas l'âge d'aller voter. Tout part de là. Et donc, accuser l'autorité nationale des élections qui est innocente. Non,
c'est pas une accusation, mais c'est quand même une crainte. Oui, on revient avec vous si vous acceptez bien. L'expérience électorale en Afrique a démontré que souvent le choix du peuple n'est pas respecté au profit des intérêts financiers et politiques. N'est-ce pas, M. Blaguet?
Tout à fait. J'aimerais rebondir. Hein, et justement, je suis d'avis avec ce que M. le ministre Igbeti, excusez-moi du lapsus.
J'ai dit amen.
Du directeur de cabinet Igbeti. Vient de dire, c'est extrêmement important. J'ai écouté attentivement M. Mbaya et j'ai écouté la réaction micro tendue, hein, ce que vous avez fait dans la rue au niveau des Centrafricains lambda. Sur la forme, les élections se sont passées sans incident majeur. Maintenant, sur le fond, il y a un travail technique qui revient à l'ANE. Et comme l'a dit M. Mbaya, c'est une œuvre humaine. C'est une œuvre humaine, mais politique aussi. Pour rejoindre ce que M. Gbeti a dit, effectivement, les gens mettent, il y a des enjeux. On peut mettre de l'argent. S'il n'y a pas de représentants de certains candidats au niveau justement des centres ou des bureaux de vote, il se peut qu'il y ait justement une certaine opacité. Contestée après. Mais je pense que sur le fond, il n'y a pas de problème. Mais attendons. Moi, je me base sur la forme, pardon. Ok, mais sur le fond. Attendons. Moi, je me base sur le fond parce que je suis sûr que forcément, il y aura beaucoup de recours comme on a l'habitude de le voir. Et en Afrique, vous parlez de la démocratie africaine parce que souvent, la plupart des institutions sont assujetties au pouvoir politique. Ne nous mentons pas. Ne nous voilons pas la face. La plupart des élections, maintenant, ça se passe au Congo. Bientôt, ça sera au Tchad. Et déjà, même avant le scrutin, les gens commencent déjà à parler, à crier. Ça fait partie, justement, au niveau ethno-anthropologique du comportement africain sur le plan politique. Donc, pour revenir à votre question,
oui.
Forcément, il y aura des recours. Il y aura des recours parce que je ne suis pas sûr que tout ait été parfait. Et vous verrez qu'entre la proclamation, je pense que l'ANE a déjà commencé à proclamer hein, des résultats partiels.
Bureau de vote.
J'ai suivi ça sur la radio nationale hier et avant-hier, oui. Attendons, il y aura des recours qui seront déposés au niveau de la Cour constitutionnelle. Et attendant les résultats. Donc, pour l'instant, je n'aimerais pas me prononcer. Maintenant, je rejoins ce que M. Mbaya et M. Gbeti ont dit. Ça fait partie de l'œuvre humaine. Donc, forcément, il n'y aura pas de perfection. Il y aura forcément des ratés et des protestations et des contestations.
Pascal Koyamene, porte-parole du Rassemblement démocratique centrafricain, RDC, quelle est donc votre réaction?
Moi, je pense que dans ce qui a été dit ici par les auditeurs, c'est un problème de confiance entre le peuple et les institutions qui sont chargées d'organiser les élections. Si on jette un regard dans l'histoire de notre pays, on sait que les organes, l'ANE par exemple, est vraiment dépendant du gouvernement, n'a d'oreille que pour le gouvernement. Et les résultats ne reflètent jamais ce que le peuple a dit le jour du vote. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. C'est pour ça qu'il n'y a pas de confiance. Cet aspect doit être vu. Même si notre ami Mbaya dit que bon, c'est vraiment le paradis, moi je pense que ce n'est pas ça. Nous sommes dans tout un processus, des étapes. On a beaucoup critiqué l'ANE, On a mis des solutions en pratique. Si ça va dans le bon sens, tant mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que le peuple est inquiet des résultats qui vont sortir. Parce que le peuple n'a pas confiance au travail qui est fait. Parce qu'on m'a dit, monsieur Blaguet, c'est que vraiment, les organes chargés de la gestion des élections dépendent plus du gouvernement qu'autre chose. N'écoutent plus le gouvernement qu'autre chose. Ils ne vont pas vers la vérité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que, comme disait... le directeur de cabinet, il faut l'égalité des chances. On critique les partis pour dire on ne voit pas tout le monde, pas désigne pas tout le monde. Dans d'autres pays, l'État aide les partis politiques à fonctionner. Pendant les élections, on subventionne les partis politiques pour que tout le monde aille avec les mêmes chances. Par exemple, chez nous ici, vous voyez que les partis au pouvoir ont plus de moyens. Ils utilisent les moyens de l'État. Mais les partis de l'opposition n'ont rien. Même si c'est prévu dans la loi qu'il faut subventionner les partis politiques, ça n'a jamais été fait. Comment voulez-vous que les élections se passent sainement? Comment voulez-vous que les gens partent aux élections avec des inégalités criardes de cette manière? Donc voyez-vous, il y a beaucoup de problèmes dans tout ce pays qu'il faut régler. Ne voyez pas simplement cela. Mais dire aujourd'hui que l'ANE, vraiment, c'est le paradis, moi, je ne suis pas convaincu.
Oui, quelques secondes, M. Albert Mbaya. Bon,
je n'ai pas dit que l'ANE, c'est le paradis, mais j'ai seulement rappelé les mesures correctives qui ont été mises en place par l'ANE pour... En tout cas, garantir la transparence dans les opérations. Depuis les bureaux de vote jusqu'au centre de traitement de données, l'ANE a prévu une place pour les représentants des candidats et des partis politiques. À la fin des opérations,
les
dépouillements, ceux qui représentent les candidats ou les partis politiques ont eu accès aux feuilles des résultats. Qui peuvent
les procès-verbaux.
Les PV, mais surtout les feuilles de résultats, ils ont une copie. Cette fois-ci, ils ont reçu les feuilles de résultats.
Mais au niveau de Bimbo 3, hein, on a eu des plaintes là-bas qu'ils n'ont pas rentré en question. Est-ce que c'est réglé?
Je n'ai pas cette information avec précision, mais en tout cas, si cela est arrivé, ça, c'est peut-être un incident isolé. Mais en tout cas, dans les colisages qui ont été faits par l'ANE, tous les documents, les imprimés, ont été prévus de telle sorte que les représentants des candidats puissent fournir à leur patron, leur parti politique ou candidat, en tout cas, les résultats qu'ils ont obtenus au niveau de chaque bureau de vote. Et au moins, je vous parle au centre de traitement de données, la porte est même ouverte. Hier encore, M. Momokoma Théophile lançait un appel demandant aux partis politiques d'envoyer leurs représentants pour être dans la salle et voir comment les documents sont traités. Et donc, à mon avis, d'après cette organisation, il y a en tout cas un minimum qui est garanti par l'ANE pour que chacun puisse avoir l'information en temps réel, plutôt que de parler sur la base du soupçon.
Quelques secondes, monsieur David Bétier.
Oui, je voulais répondre à une préoccupation du représentant du RDC, le ministre Koyamene, en ce qui concerne le financement des partis politiques dans notre pays. Ça, c'est un problème qui a toujours surgi jusqu'à aujourd'hui. Le ministère de l'Intérieur et du Territoire est en train de donner un statut à l'opposition. Les textes sont là, je vous ai amené un exemplaire. Et donc, c'est très important de donner l'égalité des chances à tout le monde. Mais la première fois que le régime MLPC a tenté de financer les partis politiques, mais ça faisait un mouvement sismique dans tous les QG, ça éclatait. C'est les patrons du parti qui ont pris l'argent, qui ont mis dans leur poche, que les militants... Il y a eu des grèves partout. Deuxièmement, le financement du parti pour les élections doivent venir de l'intérieur du parti. Ils n'ont pas de militants engagés. Un militant, quand on verse mensuellement ses cotisations, quand on a une carte, le plus souvent, c'est des boucliers électoraux qui sont là, qui tournent autour. L'accès, le troisième point, c'est l'accès aux médias des partis politiques. L'administration du territoire a pris compte de cela dans les statuts de l'opposition, de permettre à ce qu'améliorer les conditions de travail des partis politiques de manière à ce que la démocratie soit au premier jour.
Voilà, merci beaucoup. Mais déjà, certains candidats se déclarent vainqueurs sur les réseaux sociaux à travers les résultats fournis par leurs représentants. N'est-ce pas une manière pour eux de contraindre l'autorité nationale des élections ANE à respecter la volonté des urnes, M. Bayan?
En tout cas, ça c'est un sujet que nous avons récemment évoqué au niveau de l'ANE. Et je dis une fois de plus qu'il faut avoir la gentillesse de reconnaître la dimension humaine dans les opérations électorales. Ce ne sont pas des oiseaux, ce ne sont pas des morceaux de bois, ce sont des humains qui vont aux élections. Chacun a envie de gagner. Si vous prenez cette base-là, comme le disait mon ami, cette base qui est anthropologique, vous comprenez. Nous sommes des humains. Et donc chacun aimerait avoir ce fauteuil, mais quand il y a un fauteuil...
Pourquoi ailleurs ça se passe bien qu'ici, les humains, c'est seulement Centrafrique, bon, ou bien enfin, les humains, c'est le monde entier?
Mais c'est cela. Donc,
ailleurs, ça se passe bien.
C'est des éléments qui sont transversaux. Et donc, quand les gens disent que non, c'est moi qui ai gagné, c'est pour essayer peut-être d'influencer, pour se rassurer, parfois pour se calmer de ses propres nerfs. Mais le vrai problème est qu'il y a les opérations de dépouillement qui se font, Les résultats sont publiés de manière systématique sur les ondes. Et l'ANE, après compilation, va proclamer provisoirement, donc tel quel, ces résultats, sans rien modifier. Et le bloc sera envoyé à la Cour constitutionnelle. Et en cas de recours, c'est la Cour constitutionnelle qui va maintenant évaluer pour voir s'il y a des problèmes ou pas. Et les résultats définitifs seront proclamés par cette institution. Et donc, ceux qui s'autoproclament déjà vainqueurs, je pense que c'est beaucoup plus pour...
Peut-être ils ont les représentants dans tous les bureaux de vote. Et voilà, ils peuvent entrer en position de tous résultats et préparer. Mon collègue ou bien mon challenger a tel...
En tout cas, chacun, mais justement, vous voyez, ça corrige ce qui a été dit tout à l'heure par certains gens. Les faits de résultats, chacun a eu à cette occasion-là. Donc, ils peuvent facilement faire l'addition des voix qu'ils ont eues. Mais ce n'est pas là la proclamation. Non. C'est la Cour constitutionnelle qui donne les vrais résultats.
Oui, voilà, la Cour constitutionnelle, d'abord, avant tout, l'Autorité nationale des élections. Monsieur Pascal Lokoyamene, quelques secondes.
Je reviens toujours au basique. C'est-à-dire, le problème qui se pose, c'est au niveau de l'ANE. L'ANE, par le passé, même le passé le plus récent, c'est-à-dire les élections du 27, vous avez vu ce que ça donnait comme résultat. Il y a eu beaucoup de critiques. Dieu merci, l'ANE, les nouveaux membres de l'ANE ont tenu compte de cela et ont organisé des séminaires pour essayer d'expliquer un peu ce qui s'est passé. C'est la réalité de notre pays. Les résultats sortent des urnes, ce qu'on proclame la radio est tout à fait à l'opposé. C'est ça qui crée qu'il y a une méfiance entre le peuple et les résultats l'ANE et les institutions, j'ai dit les institutions qui sont chargées de gérer les élections. Et va plus loin, comme disait David Bitty, c'est-à-dire quand les élections, le résultat sorti des urnes est bafoué et qu'on proclame quelqu'un d'autre, ça pose énormément de problèmes et ça remet en cause et ça nous remet dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est-à-dire ne pas déclarer, respecter le verdict des urnes pose un nombre de problèmes et amène le pays dans le gouffre. Ça crée la crise que nous connaissons aujourd'hui. C'est l'une des raisons pour laquelle nous nous trouvons dans cette crise-là aujourd'hui.
L'essor de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, certains candidats en profitent pour commencer à se déclarer vainqueur des urnes. C'est quoi donc ce système aujourd'hui, monsieur Karl Blaguet?
Oui, mais pour rejoindre le ministre Koyamene, d'une manière basique, dans chaque bureau de vote centre, chaque parti politique, disons, chaque candidat a des représentants. Le jour de la fermeture, à l'heure de la fermeture du vote, pendant le dépouillement, il y a chaque candidat ses représentants. Et qui coche, avec les réseaux sociaux et l'Internet, ils envoient automatiquement à l'état-major de leur parti. Ça permet une fluidité et une réponse et un résultat rapide. Mais comme l'a dit M. Mbaya, ça, ce sont des résultats pris à la traîne, rapidement, comme ça, sur place. Il va falloir traiter parce qu'après, il peut y avoir des recours. Mais déjà, ça donne, comment on appelle ça, une visibilité. Si chaque candidat a des représentants avec l'outil informatique, c'est pas comme aux États-Unis où on peut pirater les serveurs de l'ANE comme ce que la Russie ou les États-Unis font. Non, mais ici, d'une manière basique, quand chaque candidat a des représentants sur place, assesseur ou autre, chaque fois qu'on dépouille tel Monsieur tel, il coche, et après on donne les pourcentages, ils envoient au fur et à mesure par les différents réseaux. C'est tout, donc je pense qu'automatiquement ça donne une idée des résultats. Maintenant, par rapport au transport des résultats et des PV jusqu'au centre de traitement des données, s'il y a changement, c'est sûr que l'état-major de ce candidat-là va s'étonner.
Mais effectivement, il y a un danger, voilà. Monsieur David Bétier, qui guette cette manière de faire. Puisqu'aujourd'hui, certains candidats se déclarent vainqueurs. Et si par méfiance, ils ont mal calculé et que c'est l'autre qui gagne après, qu'est-ce qui pourrait advenir, selon vous, demain sur ce point?
Respectant les textes qui régissent le fonctionnement de notre pays, nous sommes tous ici des intellectuels. Aucune page, aucun article n'autorise quiconque de proclamer les élections si ce n'est pas les institutions déterminées. Partout ailleurs, il y a le président sortant des États-Unis qui disait « c'est lui qui a gagné les élections ». Ça, c'est la politique. On ne peut pas tenir compte de cela. Ça ne peut même pas faire l'objet. Il y a des moments où, quand le peuple n'a pas confiance à ces institutions, il se met... Lorsqu'on parcourait les préfectures, pour l'enrôlement, nous avons vu le découragement du peuple pour s'inscrire sur la liste électorale. Ils ont donné trois raisons. La première raison, ce sont les coups d'État. C'est-à-dire, nous, on vote les gens, et puis après. Deuxièmement, c'est les fraudes électorales. Troisièmement, ceux que nous votons ne font rien pour nous. Et tout ça, nous devons tenir compte, si nous aimons notre pays, si nous voulons de la démocratie, si nous voulons respecter la volonté du peuple. C'est un danger. Nous, vous ne pouvez pas, il y a la liberté d'expression, hein. Vous ne pouvez pas empêcher un électeur ou un candidat de dire ce qu'il veut, mais seulement, parfois, amène des conséquences graves et irréparables. Heureusement, ici chez nous, après les résultats des élections, il n'y a pas de trouble. Mais les Centrafricains, ils te laissent le temps. Tu manges un an, deux ans, trois ans, quatre ans, ils arrivent pour te déstabiliser, même à table. Et donc, nous faisons tout le tour de ces réalités sociométriques pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour notre pays.
Oui, M. Kalblag, vous voulez rebondir. Oui,
bien sûr, pour rebondir à ce que M. le directeur de cabinet, M. Béthi, vient de dire, effectivement, il dit trois choses. Hein, quand ils ont fait le tour un peu, pour sensibiliser un peu la population, premièrement, on s'inscrit pourquoi ? Parce qu'il y a des coups d'État. Deuxièmement, il y a des fraudes. Troisièmement, ceux qu'on vote ne s'occupent pas de nous. Mais alors, quelle est la différence entre accéder au pouvoir politique par des fraudes électorales et accéder au pouvoir politique par un coup d'État ? Je rebondis et je repose la question à M. Gbeti.
Oui, M. Gbeti, vous voulez bien répondre.
Justement, vous n'avez pas compris la première raison. Parce qu'on vote les gens et qu'il y a coup d'État. Les gens n'ont pas le temps de faire quelque chose pour nous, pour les infrastructures socio-économiques, pour relever le pays à cause des nombreux coups d'État. Oui. Voilà le découragement. Je vous repose la question. C'est clair. Si... ce que disait le représentant de l'ANE ici, que le peuple veut terminer avec cette histoire d'arriver à la marche suprême de l'État par les armes, par le sang, par les tueries des innocents. On n'en a plus besoin. Maintenant que c'est la démocratie, il faut que la démocratie soit respectée.
Voilà, et c'est sur ce que nous mettons un terme à ce débat d'aujourd'hui sur Radio Ndekeluka. Je rappelle que nous faisions le bilan des élections législatives partielles, le second tour du 14 mars dernier ici en République centrafricaine, et nous avions reçu autour de cette table monsieur David Béthi, directeur de cabinet au ministère de l'administration du territoire. Monsieur Béthi, merci d'être venu.
Merci à vous.
Monsieur Albert Mbaya, chef de division communication de l'autorité nationale des élections. Merci aussi pour votre participation à ce débat.
Merci, confrère.
Merci aussi à monsieur Karl Blaguet, observateur de la vie sociopolitique de Centrafrique.
Merci beaucoup, Armando.
Merci à monsieur Pascal Koyamene, porte-parole du RDC, hein, Rassemblement démocratique centrafricain. Ce n'est pas la République démocratique du Congo. Hein.
Merci beaucoup pour la précision.
Merci beaucoup. Je suis Armando Yangendi. J'ai bénéficié de l'appui technique de Stéphane Flemalé, de Rodrigue Leroy Benga et aussi de Jean-Hugues Bagali. La partie technique était assurée par Gabriel Trésor Yenemati. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre titre. Merci.